Mais en cas de fièvre typhoïde, la température augmente, mais le pouls a tendance à rester normal. Ça, ce sont des éléments cliniques qui mettent le clinicien en alerte. Le clinicien va procéder à faire des examens de laboratoire. Il y a des examens de confirmation et des examens d'orientation. Pour confirmer la fièvre typhoïde, on doit faire ce qu'on appelle la culture de sang, hémoculture. C'est le premier examen. On peut aussi faire la coproculture, et la culture est au niveau des selles. Pas seulement ça, on peut faire l'uroculture, la culture au niveau des urines. On peut faire aussi la biliculture. C'est principalement ces éléments-là qui aident les cliniciens à poser le diagnostic précis confirmant la fièvre typhoïde. Mais en dehors de ces éléments-là, de ces tutus, il y a des éléments, ce qu'on appelle les diagnostics d'orientation. Ça, par exemple, on va faire l'ouïdale qui peut vous orienter vers la fièvre typhoïde. On peut faire l'énumération des globules blancs ou l'hémogramme, principalement. Ça peut aussi vous orienter. Mais principalement, pour confirmer ça, on doit faire l'hémoculture, on doit faire la copoculture, on peut faire la biliculture ou encore l'uroculture.
Christian Dérabé veut savoir si le régime alimentaire ou bien l'eau peuvent aussi provoquer la fièvre typhoïde.
La fièvre typhoïde, c'est une maladie, ce qu'on appelle maladie de Messal. C'est une maladie dont la source de contamination, c'est la source humaine. C'est à partir des maladies ou des portées chroniques qui sont des hommes. La principale voie de contamination, c'est la voie digestive. C'est-à-dire qu'on prend les germes en les mains et on va les introduire dans les tubes digestifs. Les modes de contamination peuvent être directs, donc de l'homme à l'homme, à partir des mains qui sont sciées ou de l'eau qui est contaminée, et en manipulant des éléments ou des aliments qui sont contaminés, avec des mains sales, on peut se faire contaminer. Mais aussi une contamination indirecte. Et la contamination indirecte, c'est fait par des billets des mouches, des cancrelats et d'autres bestioles qui peuvent entrer en contact avec les matières fétales de l'homme et avec les mains sales en ingurgitant la nourriture, par exemple, on peut attraper facilement la fièvre typhoïde. Mais il faut noter qu'il y a des facteurs favorisants.
Vous parlez des facteurs favorisants. Quels sont ces facteurs qui peuvent facilement favoriser la fièvre typhoïde?
Deux groupes de facteurs principalement. Le premier groupe de facteurs, c'est ce qu'on appelle l'hygiène individuelle et publique qui est déficiente. Ça consiste à quoi? C'est par exemple ne pas se laver les mains avant les repas ou après avoir été aux toilettes. C'est s'exposer par exemple ou bien exposer des aliments qu'on doit manger à l'air libre, à la portée des mouches, des bestioles ou encore des cancrelats. C'est avoir des fosses septiques bouchées ou mal entretenues. Mais aussi, c'est le manque d'eau de qualité qu'on consomme qui peut favoriser l'hygiène déficiente. Le deuxième groupe de facteurs favorisants, ce sont des régions où il y a des grandes concentrations des hommes. Là, nous pouvons citer des internats, des casernes, des prisons, des structures où il y a une promiscuité. Donc, c'est principalement ces deux groupes de facteurs favorisants qui peuvent nous amener à faire la fièvre typhoïde.
Kevin Kaninda, depuis Lubumbashi, il dit qu'il a quelqu'un de proche, un de ses proches qui souffre de la fièvre typhoïde. Il s'inquiète s'il peut être contaminé. Donc, si cette maladie peut venir d'une personne vers une autre.
Oui, je l'ai dit tantôt, j'ai dit que ce sont des maladies transmissibles. Transmissibles, ou ce sont des maladies des liens sales. Quelqu'un qui est contaminé, qui a les germes, ou bien qui porte les germes en lui, il peut aller faire ses selles facilement et ne nettoie pas très bien les mains après s'être essuyé. Et il quitte les toilettes, il ne se lave pas les mains, il vient vous saluer directement. À partir de vos mains, de cette salutation, vous pouvez vous faire attraper par la fièvre typhoïde.
Ok, je crois qu'il a compris, c'est bien clair. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont plus disposées à souffrir de cette maladie?
Il n'y a pas de personne disposée à faire la maladie. Sauf seulement qu'il y a des régions qui ont une hygiène défectueuse et dans ces régions-là, on trouve un peu plus beaucoup de cas de fièvre typhoïde qui sont liés à l'hygiène. Mais il n'y a pas un âge ou des personnes ou le sexe qui ont une prépondérance à faire la fièvre typhoïde qui notre région. Il n'y a pas déjà l'âge pour dire non. Seulement, ceux qui sont exposés par rapport à leur hygiène qui n'est pas une hygiène adéquate, ces personnes-là sont susceptibles de faire la fièvre typhoïde.
Jean Okongo Osumaka qui se demande si la fièvre fièvre typhoïde peut aussi attaquer les enfants de moins de 5 ans, les bébés que la maman est en train d'allaiter par exemple.
La fièvre typhoïde attaque tout le monde. Vous savez que les enfants de moins de 5 ans sont des personnes de nature vulnérable. Et quand une maman n'a pas une bonne hygiène, la maman peut contaminer son enfant. Vous savez que les enfants sont des personnes qui ont une immunité faible. Naturellement, une maman qui est infectée et qui ne sait pas très bien se soigner peut transmettre les germes à ses temps. Elle a des germes entre ses mains, elle va manipuler ses seins et en donnant les seins à l'enfant, l'enfant peut se faire contaminer.
Est-ce que vous avez beaucoup de personnes dans votre hôpital qui viennent vous consulter pour la fièvre typhoïde?
Oui, la fièvre typhoïde fait partie des maladies tropicales. Surtout dans les conditions de notre travail, dans les conditions de nos milieux où la salubrité n'est pas à la portée de tout le monde. Nous consultons beaucoup de cas de fièvre typhoïde, mais il faut noter là que la plupart des cas, ce sont des cas qui viennent avec beaucoup de complications. Les gens qui ont été manipulés par-ci, par-là, et quand il y a des complications, ils nous amènent soit avec des hémorragies digestives, soit avec des perforations intestinales, soit encore avec des malades qui viennent en coma, en encéphalite typhique, comme on l'appelle. Donc nous les recevons régulièrement.
Merci beaucoup. Est-ce que la fièvre typhoïde, comme on l'appelle fièvre, c'est une maladie qu'on peut facilement confondre à une autre et confondre le malade, quoi?
Oui. La fièvre typhoïde, on peut faire les diagnostics différentiels avec beaucoup d'autres maladies. Par exemple, la malaria peut se confondre avec la fièvre typhoïde parce que la malaria a aussi des fièvres. Mais sepsis, c'est une infection généralisée. Vous pouvez les confondre avec la fièvre typhoïde et l'angioculite parce que au stade avancé de la fièvre typhoïde, des complications, vous pouvez avoir une hépatosplénomégalie qui peut vous amener à confondre la fièvre typhoïde avec l'angioculite. Vous avez aussi la tuberculose, la shigellose et les salmonelloses non typiques, la amébiase colo-hépatique sont là des groupes de maladies qui peuvent se confondre avec la fièvre typhoïde.
Merci beaucoup. Est-ce que toutes les personnes qui ont la fièvre typhoïde ont des symptômes qu'on peut facilement distinguer ou bien il y a aussi des malades qui sont porteurs ou bien qui ont la fièvre typhoïde mais ne développent pas les symptômes? Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment ces personnes peuvent savoir qu'ils ont la fièvre typhoïde?
C'est difficile. Je l'ai dit tantôt, quelqu'un peut avoir fait la fièvre typhoïde. Après quelques temps, il a en lui, on appelle ça des porteurs chroniques, ces anticorps ont développé l'immunité contre la fièvre typhoïde. Mais à l'ennemi, quand on n'a pas encore fait la fièvre ou quand on n'a pas encore été examiné, c'est difficile de dire que celui-ci porte la fièvre typhoïde ou pas. Donc il faut faire la maladie ou encore ceux qui fréquentent les services hospitaliers, lors d'un check-up ordinaire et en faisant le bilan général, on peut aller découvrir qu'il a la fièvre typhoïde pendant qu'il n'a pas encore commencé à faire la maladie.
C'est pourquoi il est important de faire un bilan médical de temps en temps.
C'est recommandé de temps en temps, même quand vous n'êtes pas malade, de faire le bilan médical. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, surtout, les maladies liées à la civilisation, hypertension, diabète, tout ça, insuffisance rénale, ce sont des maladies qu'on ne voit pas quand ça commence au début. Donc, quand vous avez des symptômes, la maladie s'est déjà installée. C'est comme ça qu'on recommande à tout le monde, même quand quelqu'un n'est pas malade, régulièrement d'aller faire un check-up tous les 3 mois, tous les 6 mois. C'est parfois pour aller découvrir ce que vous n'avez pas encore des symptômes. Parce que la plupart des temps chez nous, nous allons à l'hôpital seulement quand on commence à faire la fièvre, quand on commence à voir tel symptôme. Et souvent, la maladie a déjà pris de l'ampleur et vous venez la dénicher après.
Merci beaucoup, docteur. Je pense que à cause du temps, nous allons nous arrêter ici. Mais prochainement, nous promettons aux auditeurs que nous allons revenir avec le docteur Timothée Nkiba pour aborder la deuxième partie de cette émission parce que beaucoup d'auditeurs ont aussi posé les questions concernant le traitement, la prévention de la fièvre typhoïde, mais aussi les complications qu'une fièvre typhoïde mal traitée ou non traitée peut entraîner dans la vie d'une personne.
Merci beaucoup.
D'accord, nous vous remercions, docteur. On se donne rendez-vous à la semaine prochaine.
Merci.
C'était notre discussion avec le docteur Timothée Nkiba, médecin directeur à l'hôpital d'Idiofa dans la province du Bandundu en République démocratique du Congo. Notre discussion a porté sur la fièvre typhoïde. À présent, carnet de santé avec l'énorme Doux.
Cette semaine, dans Carnet de santé, un regard sur le don de sang. Une entrepreneure au Nigeria souhaite améliorer la transfusion sanguine dans son pays. Pourquoi donner son sang? La réponse des experts. Ensuite, Le plaidoyer de certains étudiants en Virginie concernant l'éligibilité au don de sang. Enfin, les drones sont les nouvelles armes pour combattre le paludisme aux Zanzibar. C'est dans cette édition de Carnet de Santé. Bonjour et merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de Carnet de Santé. C'est un processus qui permet de sauver des millions de vies, le don de sang. Selon la Croix-Rouge, une personne sur 10 donne du sang, tandis qu'une personne sur 7 en aura besoin un jour. La plupart des personnes qui donnent du sang sont des bénévoles. Néanmoins, le don de sang est payé dans quelques pays. Toutefois, les approvisionnements sanguins dans certains pays sont limités et le don de sang volontaire est la clé pour répondre aux demandes de transfusion sanguine. Plus de 40% des dons de sang collectés dans le monde se trouvent dans des pays à revenus élevés. Les experts affirment que de nombreux patients dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires qui ont besoin d'une transfusion sanguine n'ont pas accès à temps à du sang sain, y compris dans des cas d'hémorragie après accouchement. Kwaku Akieman Manu est le ministre de la Santé du Ghana. Il nous en dit plus.
Quand on regarde la santé maternelle, quelque chose de fondamental arrive aux mères après l'accouchement. Une hémorragie postpartum, elle saigne et saigne. Dans la plupart des cas, à moins d'administrer un médicament, le plus sûr est de leur administrer du sang. Ainsi, la transfusion sanguine devient très importante dans cette lutte. Le défi de la mortalité maternelle ne saurait être relevé si vous n'avez pas du sang à proximité. Vous ne pouvez pas sauver des vies sans cela. C'est pourquoi il est très important que nous mettions en place des structures qui peuvent permettre d'avoir du sang disponible à tout moment pour sauver des vies.
Temi Jiwa Tubosun est la fondatrice de Life Bank, une entreprise nigériane qui a pour ambition d'améliorer l'accès aux transfusions sanguines dans son pays. Elle explique comment.
Life Bank est une société de distribution médicale. Nous livrons aux hôpitaux des produits d'urgence essentiels tels que le sang et l'oxygène 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en utilisant la technologie et un système de distribution intelligent. Nous avons un système appelé 4D. D'abord, nous faisons l'inventaire. Ensuite, nous aidons les hôpitaux à identifier ce dont ils ont besoin à l'aide de quelques applications web et d'un centre d'appel ouvert 24 heures sur 24. Puis nous procédons à la livraison à l'aide de moto 24 heures sur 24. Nous aidons aussi la banque de sang à trouver des donneurs afin qu'il n'y ait pas rupture de stock.
Vous êtes à l'écoute d'un programme en rediffusion sur VOA Afrique.
Avez-vous déjà eu besoin d'une transfusion sanguine ou peut-être quelqu'un que vous connaissez? Si oui, était-il facile ou difficile de trouver du sang? Voici certaines de vos réactions sur Facebook. Mohamed Salis Amadou nous dit « Oui, le papa de mon meilleur ami avait eu besoin d'une transfusion. Ils nous ont dit de revenir le lendemain. Nous avons pu trouver qu'une poche de sang alors que nous en voulions deux. Pour trouver du sang, c'est la croix et la bannière. » Marius Gris répond « La difficulté d'en avoir est grande due à la cherté de la poche. » Et Emmanuel Kayonda dit « Le problème réside au niveau de la sensibilisation sur le don de sang. La plupart considèrent le don de sang comme un tabou dans mon pays, la République démocratique du Congo. » Quel est votre avis sur le don de sang? Êtes-vous donneur ou donneuse de sang? Voici vos réactions depuis Dakar.
Oui, j'ai eu à donner de mon sang il y a quelques mois de cela. Et d'ailleurs, j'ai même une carte de donneur, une carte qui montre que je suis un donneur régulier, puisque j'ai pris également l'engagement chaque 3 mois d'aller donner de mon sang, puisque je trouve que c'est un acte citoyen. Tout le monde en a besoin et c'est un produit qu'on ne peut pas fabriquer. Donc, il n'y a que l'homme qui peut donner du sang.
Je pense que j'ai même honte de l'avouer comme ça face à la caméra, que je n'ai jamais donné de mon sang, mais je pense que c'est juste par manque de temps. Et un souci aussi au niveau de la communication, parce que ça ne passe pas vraiment. Lorsqu'une structure a besoin de sang, la communication n'est pas très très au top.
Alors moi, je n'ai jamais donné mon sang, mais en fait, une fois, on m'avait demandé de le faire. Alors je suis allée, je me suis portée volontaire. Et à l'époque, je ne faisais pas 50 culots. Donc c'est la raison pour laquelle je n'ai pas pu donner mon sang. Bon, je trouve que c'est quelque chose de bien. Les gens devraient, on devrait vraiment inciter les gens à venir donner leur sang. Parce que voilà, c'est très noble, sauver une vie.
Moi, j'ai donné mon sang à 2 reprises. La première fois, c'était en 2012. Et c'était grâce à une caravane de sensibilisation. Ça avait attiré mon attention. Je suis descendu, c'était juste en bas de mon immeuble.
J'avais une crainte, parce que la crainte, c'était la piqûre. Il faut se dire que c'était la piqûre. Parce que le fait de prendre une seringue, de mettre ça dans ta peau, tout ça là, j'avais carrément une arrière-pensée en disant que c'était pas fait pour moi. Et c'est là que, bon, on m'a dit, je me suis lancé. C'est comme ça que ça s'est arrivé. Je me suis lancé en 2012. Pourquoi pas? C'est vrai aussi, donner du sang, c'est sauver une vie.
La plupart des gens qui ne vont pas donner du sang, ils ont un préjugé. D'abord parce qu'ils ont peur, il y a des rumeurs qui passent qu'en général il y a des contaminations par-ci par-là. Et je pense que c'est à eux de faire des campagnes de com pour expliquer aux gens que c'est safe, quoi, c'est-à-dire c'est sécurisé et que les gens peuvent donner leur sang.
Il y a aussi des aspects souvent qui font que les gens ne veulent pas vraiment donner leur sang. Parce qu'en fait, souvent, pour la plupart, quand ils partent au niveau des hôpitaux, ils retrouvent les poches de sang qui sont vendues à nouveau. Et ça, aujourd'hui, c'est des problèmes qui freinent les gens, qui disent, moi, pourquoi je vais donner mon sang? Après, derrière, si peut-être moi, j'ai des problèmes, que je pars et qu'on me revende ce sang. Donc, c'est assez contradictoire.
Selon l'OMS, la plupart des adultes en bonne santé peuvent donner du sang. Il existe certains critères d'éligibilité, tels qu'avoir entre 18 et 65 ans et peser au moins 50 kilos. Le don de sang est nécessaire, entre autres, parce qu'il est impossible de fabriquer du sang artificiel. De plus, les produits sanguins ont une durée de vie limitée. Alors, n'hésitez pas à donner votre sang assez régulièrement si vous êtes éligible. Vous pouvez sauver une vie. Certaines personnes ne peuvent pas donner leur sang pour différentes raisons. Depuis 2014, l'administration d'aliments et de médicaments des États-Unis, le FDA, a interdit aux hommes homosexuels et bisexuels qui sont sexuellement actifs de donner du sang en raison de la crainte que le virus VIH ne se propage. Mais un groupe d'étudiants dans l'État de Virginie essaie de changer cela. Voici le reportage d'Alexis Gorbatchev avec le récit d'Anna Reiss.
Les étudiants de l'Université de Virginie se battent activement pour lever les réglementations interdisant aux hommes homosexuels et bisexuels de donner du sang, à moins qu'ils n'aient pas eu de relations sexuelles depuis 12 mois. Austin Hook, étudiant de première année, a fondé Homoglobin.
Notre autre objectif majeur est d'obtenir de la FDA, la Food and Drug Administration, qu'elle réduise ou élimine la politique de report pour les hommes gays et bisexuels qui donnent du sang. Actuellement, si vous êtes gay ou bisexuel et que vous avez eu des relations sexuelles avec un autre homme, vous ne pouvez pas donner du sang pendant 1 an et la science ne le soutient pas.
Hook a commencé à faire connaître son organisation sur le campus et de nombreux étudiants se sont déjà associés à lui.
J'ai entendu parler d'homoglobine et j'ai voulu m'impliquer parce qu'en tant que membre de la communauté LGBT, ça ne me fait pas de savoir que les homosexuels ne peuvent pas donner de sang.
Hook espère obtenir un soutien sur et autour du campus pour lever l'interdiction existante et repenser la loi. Il a réussi en ligne, mais se rend compte qu'il a besoin d'une assistance hors ligne.
À ce jour, nous avons une quinzaine de bénévoles qui vont m'aider à collecter des fonds, organiser des événements. Nous prévoyons de faire du porte-à-porte, nous irons voir les locaux en allant de maison en maison pour demander des dons et informer les gens sur ce que nous faisons.
L'Agence américaine de contrôle des médicaments et produits alimentaires déclare qu'elle suit l'évolution de la science et examinera les lois existantes si de nouvelles recherches et de nouveaux tests montrent que l'interdiction peut être levée en toute sécurité. Mais l'agence souligne également que le risque de propagation du virus VIH est plus élevé chez les hommes homosexuels et bisexuels. Chaque année, plus de 50 000 nouveaux cas d'infection sont signalés aux États-Unis, mais tout le sang donné est soumis à des tests rigoureux et les chances de contracter le VIH par transfusion sont très rares dans le pays.
Nous avons des médicaments antiviraux qui non seulement sont très efficaces, mais ils peuvent également réduire de manière significative le virus dans le sang de manière à ne poser qu'un très faible risque, voire aucun risque du tout. Donc, étant donné que le risque de contamination du sang est extraordinairement faible, je pense qu'il est temps pour nous de repenser cette loi.
Les drones sont utilisés comme une nouvelle arme dans la lutte contre le paludisme sur l'île de Zanzibar. Voici comment le pays utilise la nouvelle méthode pour lutter contre la maladie.
Des drones comme celui-ci pulvérisent une solution de silicium au-dessus de l'eau stagnante, formant une fine couche qui empêchera éventuellement les œufs de moustiques d'éclore. Le docteur Bart Knowles est un entomologiste médical et chercheur principal travaillant avec le programme d'élimination du paludisme de Zanzibar.
Cela durera environ 3 semaines, peut-être 4, puis l'agent de contrôle biologique, le film, se décomposera de lui-même. Après un mois, on applique un nouveau film sur la surface de l'eau et on a ainsi plus de contrôle sur les moustiques.
Sans le gel, les larves seraient devenues des moustiques adultes à la recherche de sang. Lorsque ces moustiques piquent des humains infectés par le paludisme, ils deviennent des vecteurs de la maladie et continuent le cycle mortel de transmission. Le long de la côte de l'océan Indien en Afrique de l'Est, Zanzibar et la Tanzanie continentale ont eu une longue bataille contre le paludisme. L'utilisation de drones est le meilleur moyen pour résoudre le problème, explique Abdullah Ali du Zanzibar Malaria Elimination Program.
Avec une intervention manuelle, on ne peut pas couvrir une large zone. Mais là, ce sera différent.
Les responsables déclarent que la pulvérisation par drone est un moyen relativement peu coûteux d'empêcher les moustiques de se reproduire.
Sur la base d'une vitesse que nous ajustons, avec 10 litres, un drone peut couvrir une surface d'un hectare en 3 minutes. Nous avons calculé qu'en une heure, nous pouvons pulvériser 8 hectares. Within 1 hour, we can
spray 8 hectares. Cela équivaut à une surface de 8 terrains de rugby. Selon l'Organisation mondiale de la santé, Equatine EMF, le produit pulvérisé est sûr et efficace lorsqu'il est utilisé conformément aux instructions sur les étiquettes.
La technologie des drones est également utilisée pour la livraison rapide de vaccins et de médicaments vers des zones reculées ou difficiles d'accès dans des pays tels que le Rwanda et le Ghana. C'est la fin de cette édition de Carnet de santé. Si vous avez des questions ou pour toutes vos réactions, rejoignez-nous sur la page Facebook de VOA Afrique ainsi que sur notre site web voaafrique.com. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter @linormoudou. Merci de nous avoir rejoint. D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien et à très bientôt.
de votre santé, votre avenir. Nous avons parlé de la fièvre typhoïde, notamment des symptômes, des modes de transmission et aussi de ce qu'il faut faire lorsque survient cette fièvre. Nous étions en compagnie du docteur Timothée Nkeba, médecin directeur à l'hôpital d'Idjofa dans la province du Bandundu en République démocratique du Congo. Ensuite, Linor Moudou vous a présenté Carnet de santé. Ce magazine santé a été réalisé grâce au concours de Michel Joseph et de John Allison qui était à la console. Nanit Talani à la présentation. Continuez d'écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir.
Vous étiez à l'écoute d'un programme en rediffusion sur VOA.